L'heure du LEM a sonné, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. L'environnement, c'est important, on fait des lois pour le préserver et Bretagne Vivante veille sur leur application.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine, avec de vrais morceaux de Finistère dedans et même de toute la Bretagne parfois. Surtout quand notre partenaire du jour est une association à vocation régionale. On la reçoit une fois par mois dans cette émission. Ses membres nous plongent dans le monde vivant non humain, des animaux, souvent des oiseaux, parfois des amphibiens, plus rarement des plantes, et aussi une vie associative riche, de nombreuses actions qui sont menées et parfois jusque devant les tribunaux. Car malheureusement, les attaques contre ce vivant non humain, contre les milieux sauvages, même protégés, ces attaques ont toujours lieu. On assiste même à de nouvelles lois qui vont dans un sens contraire à la protection de la biodiversité. Mon invitée reconnaissait elle-même qu'elle avait du mal à suivre tous ces reculs législatifs. On peut dire recul, oui. Car s'attaquer aux autres vivants finit toujours par retomber sur la tête de l'humanité, sa santé, ses conditions d'alimentation, et j'en passe. L'association dont je parle, c'est Bretagne Vivante, dont on reçoit aujourd'hui la juriste Morgane Quintard. Bonjour Morgane.
Bonjour Véronique, bonjour tout le monde.
Alors j'ai mentionné Bretagne Vivante, mais en fait, l'association vient de changer de nom et s'appelle, depuis l'Assemblée Générale du 26 avril, Conservatoire d'Espaces Naturels Bretagne. Alors pourquoi ce nouveau nom? Qu'est-ce que ça implique juridiquement aussi?
Alors oui, on est heureux d'annoncer notre évolution. Alors on conserve la dénomination Bretagne Vivante, Conservatoire d'Espaces Naturels de Bretagne. Et donc on vient de rejoindre la grande famille des Conservatoires d'Espaces Naturels de France, qui est une fédération qui va nous permettre en fait notamment d'arriver à avoir une meilleure reconnaissance et plus de moyens de tous nos sites naturels et des réserves associatives qui jusqu'à présent étaient portées en fait par la seule force bénévole. Et on espère effectivement que ça va nous donner un peu plus de moyens.
Ouais.
Sur le plan juridique, en revanche, ça ne change pas grand-chose, à vrai dire, parce qu'on conserve la même gouvernance, donc avec un conseil d'administration composé exclusivement de personnes physiques, donc des particuliers. Et puis, on conserve aussi nos agréments de protection, d'association pour la protection de la nature et de l'environnement. Et donc, on va continuer finalement à mener du contentieux comme on le fait aujourd'hui.
Et c'est toujours une association d'utilité publique. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses à faire, n'est-ce pas, du fait du changement de nom, mais voilà quoi.
Tout à fait. Il y a tout un travail juridique interne aussi en lien avec le changement donc de nom qui implique de changer nos statuts. Et comme Bretagne Vivante est une association, Bretagne Vivante Seine Bretagne est une association reconnue d'utilité publique, nous devons faire valider nos statuts par le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur avant qu'ils puissent entrer en vigueur.
Et cette notion, enfin ce CEN là, ça existe depuis longtemps en France. Enfin, il y en a beaucoup, hein, je crois.
Ouais. Alors en fait, c'est une fédération qui existe. Alors je saurais pas dire depuis quand, mais peut-être depuis les années 60-70, mais
presque aussi vieille que Bretagne Vivante.
Ouais, c'est ça. Ou peut-être 80. Enfin, en tout cas, voilà, ça commence à faire quand même un moment que
c'est
ça
bien
existe.
Implanté, quoi. Ouais.
C'est bien implanté et il en manquait justement un sur la carte de France. C'était la Bretagne. Il y en a partout ailleurs, y compris dans les territoires d'outre-mer, qui sont pour certains, en tout cas, déjà dotés d'un CEN.
D'accord, donc ça ne change pas grand-chose sur le plan juridique. Combien est-ce que Bretagne Vivante traite d'affaires par an à peu près, s'il y a une moyenne à faire?
Oui, alors ça dépend un petit peu de l'indicateur qu'on prend. Moi, j'ai tendance à regarder le nombre d'affaires, alors soit le nombre de décisions qu'on reçoit chaque année, donc de décisions rendues par les tribunaux, ou de nouvelles affaires introduites devant les tribunaux. Et on est à peu près à une vingtaine d'affaires nouvelles en moyenne chaque année. Donc tout cela sans compter les dépôts de plaintes ou d'autres signalements qui se font en plus et qui ne donnent pas toujours, qui ne donnent pas toujours suite en fait devant les tribunaux, parce qu'une plainte par exemple peut être classée sans suite, donc ça je le compte pas forcément comme une affaire nouvelle.
Et dans ces affaires, c'est des affaires qui sont menées que par Bretagne Vivante ou ça peut être des affaires conjointes? Parce que là, je vois que par exemple, Oui Rivière de Bretagne faire annuler des permis de mine, enfin, devant la justice. Est-ce que ça peut être...
Oui, alors justement, c'est un bon exemple parce qu'on est aussi, enfin, on va aussi être co-requérant aux côtés d'Oui Rivière de Bretagne, mais aussi de beaucoup d'autres associations, de collectivités et même, il me semble, de particuliers, de propriétaires privés, en fait, dans le contentieux contre les permis de recherche minière. On mène effectivement pas mal d'actions qui sont en inter-association, notamment avec Oui Rivière de Bretagne quand les sujets se recoupent. On essaie d'agir en complémentarité. Donc nous, on va avoir un prisme plutôt naturaliste, biodiversité, là où Oui Rivière va plutôt être sur une approche milieu aquatique, les cours d'eau. Voilà, donc on travaille effectivement souvent en inter-association et effectivement dans ces 20 affaires nouvelles par an, il y a aussi les affaires menées en inter-associatif.
Et on parlera de mines tout à l'heure d'ailleurs. Mais d'abord, il y a dans les actualités juridiques de Bretagne Vivante Conservatoire d'Espaces Naturels, il y a le Conseil d'État qui a rendu un avis définitif sur le méthaniseur de Guiscriff. Alors, quel était le problème avec le méthaniseur de Guiscriff déjà?
Alors, c'est une affaire qui remonte maintenant à quelques années. On a contesté au printemps 2023 une décision, enfin un arrêté en fait du préfet du Morbihan, parce que Guiscriff c'est une commune dans le Morbihan qui est limitrophe du Finistère, qui autorisait une installation de méthanisation. Alors pour rappeler ce que c'est que la méthanisation peut-être en deux mots, c'est une installation de traitement de déchets dans laquelle on fait entrer justement des déchets de type du lisier par exemple. Ce sont souvent des déchets issus de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire aussi. Donc ça peut être effectivement des déchets agricoles.
Il faut que ça soit des biodéchets en fait.
Oui, c'est ça. Il faut que ce soit des
déchets organiques.
Des déchets organiques qui vont ensuite passer dans un méthaniseur.
Qui se transforme en méthane en
voilà,
gros. Quoi.
Exactement, ça fait du méthane. Et puis ça produit aussi un autre sous-produit qui s'appelle le digesta. Et qui, lui, en fait, est une espèce de bouillie en fait, de tout ce qui est entré et qui ressort et qui doit ensuite être épandu dans les champs. Donc, à chaque méthaniseur, il y a associé ce qu'on appelle un plan d'épandage. Voilà. Alors, en soi, sur le papier, ça a plutôt l'air d'être une bonne idée, la méthanisation. Seulement, en pratique et en Bretagne particulièrement, dans un contexte où on est déjà... Les sols sont déjà saturés en fait de nitrates. Le problème de la méthanisation et notamment donc de l'épandage du digesta dans les cultures, c'est que ça va enrichir d'autant plus les sols qui sont déjà suffisamment saturés comme ça. Et puis avec l'effet du ruissellement, ça va se retrouver effectivement à l'échelle d'un bassin versant jusqu'à la mer. Et donc ça contribue au phénomène des algues vertes.
Ça fait pousser les algues vertes. On peut le dire, d'accord. Et ça, ce projet de méthaniseur de Guiscriff, il était communal ou c'était un agriculteur qui le...
Alors, c'était un projet industriel pour le coup. C'est une société filiale de Engie qui porte ce projet.
Donc, de production d'énergie, là, vraiment.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent, on associe la méthanisation à quelque chose un petit peu de production à la ferme. Nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la méthanisation, c'est un processus industriel qui intéresse aussi les énergéticiens et ce n'est pas des installations qui sont sans risque. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de contester ce projet-là parce que le préfet l'avait autorisé, mais selon une procédure simplifiée. Alors c'est un petit peu technique, mais en gros, il n'y a pas eu d'enquête publique, il n'y avait pas d'étude d'impact.
Ça peut avoir lieu, ça.
Oui, parce qu'en fait, c'est la procédure d'enregistrement. Il y a plusieurs, si vous voulez, niveaux de procédure selon le risque de l'installation. Donc soit c'est une déclaration, soit c'est un enregistrement, donc là il y a quand même une phase de consultation du public mais qui se fait par voie électronique uniquement. Il y a quelques études quand même environnementales qui sont menées mais qui ne sont pas complètes. Et puis enfin il y a la procédure d'autorisation qui elle est la procédure la plus complète et donc qui implique une enquête publique, qui implique des études d'impact, donc sur des études en fait faune-flore, quatre saisons, enfin des études complètes, et donc là qui permettent d'évaluer est-ce que finalement l'installation, elle représente un risque pour le milieu et dans quelle mesure on peut éviter, réduire ces risques ou carrément refuser l'installation si on considère qu'effectivement elle est trop risquée par rapport au milieu qui doit l'accueillir. Alors là, dans ce dossier-là, nous on soutenait que justement l'installation elle allait s'implanter dans un site qui était particulièrement sensible sur le plan environnemental. Alors j'en profite, je fais un petit peu de pub pour la voie verte cyclable entre Roscoff et Concarneau, parce qu'en fait elle passe juste à côté de, justement du terrain sur lequel était projeté ce méthaniseur. Et donc c'est moi qui suis passée justement constater sur place à quoi ça ressemblait. C'est quelque chose de, c'est un très beau terrain composé de prairies, humides, qui est bordé d'un réseau de haies hyper intéressant, très dense, avec de beaux arbres. Donc voilà, c'est un très beau site. Et malgré cela, en dépit de cela, le préfet donc ne choisit pas la procédure la plus finalement exigeante. Alors, on perd en première instance, c'est-à-dire devant le tribunal administratif de Rennes. Et là, on décide de faire appel parce que entre-temps, on avait été capable de caractériser la zone humide de ce terrain. On gagne devant la cour d'appel qui dit bah, effectivement, c'est un terrain qui présente une richesse écologique particulière. Donc, il aurait dû faire l'objet de l'autorisation la plus complexe. Le porteur de projet et l'État décident de former un pourvoi en cassation. Et donc, on se retrouve devant le Conseil d'État. Et donc là, c'est effectivement la décision qui vient d'être rendue il y a un petit peu moins d'un mois de ça maintenant et qui nous donne gain de cause à la fois sur le cas d'espèce en disant bah, le projet est annulé. Parce qu'effectivement, il n'a pas fait l'objet.
Il n'avait pas commencé.
Il n'avait pas commencé. Donc, oui. On a eu de la chance dans ce dossier parce que bien souvent, effectivement, on se retrouve parfois à avoir gain de cause devant le juge, mais finalement, le projet est tellement avancé, voire terminé, oui. Que sur le terrain, c'est un petit peu ineffectif. Là, en l'occurrence, il n'a pas commencé, donc du coup, c'est...
Donc la zone est intacte.
La zone est intacte, tout à fait. Et puis, c'est aussi une décision qui nous intéresse plus largement, on va dire, au-delà de nos deux seules associations, parce que c'était aussi un contentieux d'ailleurs mené
avec Eaux-et-Rivière,
tout à fait. Sur la méthanisation, en général, ils sont.
Parce qu'on sait que ça. Enfin, quand il y a un accident de méthaniseur, comme ça s'est produit à Châteaulin, eh ben voilà, l'eau, elle est polluée, c'est l'eau potable, hein, donc c'est ce qu'on boit, c'est pas seulement une question de préservation de sites, de milieux, quoi.
Bah complètement. Voilà. Et là, sur ce site-là en particulier, justement, le fait que ce méthaniseur aurait dû s'implanter sur une zone humide, c'est pas anodin. Parce que c'est à la fois la destruction effectivement d'un habitat naturel qui est riche et important, mais c'est aussi derrière un risque. C'est un risque aussi pour la sécurité du réseau d'eau potable, parce qu'en fait, la zone humide, elle est connectée à son bassin versant. Et donc, c'est, en cas de pollution, bah, c'est tout le bassin versant qui pourrait être contaminé.
Donc voilà, une victoire. Alors on ne sait pas si ça fera jurisprudence, mais enfin, je ne sais pas, le Conseil d'État en général, ça peut.
Oui, alors voilà, effectivement, sur la portée de la décision, elle est vraiment intéressante aussi. Et c'est en ça, enfin, elle intéresse tout le mouvement associatif parce qu'en fait, le Conseil d'État, par cette décision, il est venu dire que, contrairement à ce que le porteur de projet et l'État disaient, c'est-à-dire, bah, en fait, on a pris des mesures ERC. Donc les mesures ERC, ce sont les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui permettent justement d'éviter tout risque de pollution, etc. Là où nous, on disait, mais en fait, peu importe ces mesures, ce qui compte, c'est qu'on est sur un terrain sensible et c'est ça qui aurait dû guider le préfet dans sa décision de faire, alors ça c'est un terme un petit peu technique, de faire basculer le projet vers une procédure d'autorisation au lieu de le laisser en procédure d'enregistrement. Et donc le Conseil d'État, c'est ce qui vient confirmer en disant effectivement, les mesures ERC n'ont pas à être prises en compte à ce stade-là. Elles peuvent intervenir après pour l'appréciation de la légalité du projet. En revanche, au stade d'apprécier la richesse écologique d'un site, elle n'a pas lieu en fait, d'être prise en compte.
Mmh, d'accord. Bon, une première victoire, tout ne recule pas, donc c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ce qui est intéressant aussi dans ce dossier-là du méthaniseur de Guiscriff, c'est que les bénévoles de Bretagne Vivante, et on ne le sait pas toujours, mais ils peuvent jouer un rôle aussi sur le plan juridique. Et là, il y en a eu deux qui ont joué un rôle en particulier, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il faut vraiment saluer dans ce dossier-là en particulier, mais en fait dans tous les dossiers, l'implication de nos bénévoles qui déjà réalisent une veille environnementale sans laquelle, en fait, on n'aurait pas connaissance de ces projets. Alors là, il faut plutôt saluer les bénévoles de Eaux-et-Rivière de Bretagne qui, en fait, fait ont une vigilance très forte sur ces projets et donc ont eu connaissance de la consultation du public. Dans ce cadre-là, ils ont eu accès à des documents préparatoires qui faisaient état d'une zone humide. Ces documents ont ensuite disparu, ou en tout cas ils ont été remodifiés
comme par magie,
voilà, c'est ça, au cours de la procédure d'instruction, et on n'y a plus jamais eu accès. Mais ça nous a mis la puce à l'oreille, et donc au moment de faire appel, parce qu'en fait quand on prend, vu qu'on avait perdu en première instance, quand on prend la décision de faire appel, c'est une décision qui est un petit peu lourde de conséquences, parce qu'en appel on a l'obligation de prendre un avocat
et ça coûte plus cher,
plus cher, exactement, puis c'est de nouveau se remobiliser, du temps de travail, donc on le fait pas non plus sans de manière par principe, en fait on vérifie quand même qu'on a des bonnes chances de succès.
Ça,
Et donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on a deux bénévoles de l'Orientais qui sont deux botanistes vraiment hors pair et qui ont bien voulu aller sortir un petit peu de leur du pays l'Orientais pour aller jusqu'aux confins du Morbihan et se rendre sur place, faire une étude en fait floristique des prairies et nous dire effectivement compte tenu de la flore qui est présente sur le site, c'est une zone humide, en tout cas en partie. Le terrain était en partie effectivement en zone humide et donc c'est ça qui nous a décidé, nous, à aller en appel.
D'accord, vous saviez que vous aviez des chances. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut être bénévole de Bretagne Vivante, conservateur des espaces naturels, pour faire ça aussi, pour aider la justice, quoi, en fait, environnementale. Alors, une autre décision favorable, le 7 mai, donc, cette fois à Vannes, le tribunal correctionnel de Vannes, qui a condamné les sociétés qui s'appellent donc Général du Solaire et Sablière de la Pré. Elles ont détruit, alors elles, c'est trop tard, elles ont détruit des amphibiens, des espèces protégées pendant la phase de travaux d'un parc photovoltaïque, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oui, c'est exactement ça. Alors là, effectivement, cette affaire, elle illustre justement aussi l'importance d'avoir des études environnementales de qualité. Parce que c'est un petit peu là tout le problème de ce dossier. Pour reprendre un petit peu sa jeunesse, c'est un projet de parc photovoltaïque qui était à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas qui était au moment de sa construction le plus grand de Bretagne. Il portait sur environ 20 hectares de surface au sol, donc ce qui est énorme. Et ils ont choisi comme site d'implantation, donc là on est toujours dans le Morbihan, mais plutôt dans le pays de Pontivy. C'était un parc qui s'est implanté sur les communes de Plogriffette et Radénac, donc c'est plutôt centre Morbihan. Et l'endroit choisi, c'était des anciennes sablières qui n'étaient plus exploitées depuis longtemps, comme voilà, le nom de la société l'indique, et qui en fait ont donné lieu à un petit réservoir, un bastion de biodiversité extrêmement intéressant, avec un réseau de mares très dense, très riche, des espaces boisés, des prairies humides, tout ça au milieu finalement le pays de Pontivy qui est assez abîmé par une agriculture très intensive. Et donc, on avait sur ce site-là une concentration, une densité particulière d'espèces animales, et notamment des reptiles et des amphibiens.
Oui, parce que les anciennes mines et carrières, il faut le savoir, enfin, on avait fait une émission là-dessus avec Bretagne Vivante aussi, il y a tout un biotope, hein, tout un écosystème qui se reconstitue. Enfin, c'est vrai que c'est souvent intéressant, voire très particulier.
Complètement. Et justement, c'est un site qui avait été laissé, finalement, qui avait évolué un petit peu librement. Et au moment de la reprise du projet, donc là, c'était aussi... alors, au départ, c'était Engie.
Encore
On n'a rien contre eux, promis. Mais en tout cas, Engie a revendu finalement ce projet-là à la Générale du Solaire, qui est aussi une grande entreprise en fait française qui fait du photovoltaïque, qui agit à la fois en France mais aussi à l'international, et donc qui rachète le projet à Engie et qui décide d'implanter cette fameuse centrale au sol. Alors nous, à Bretagne Vivante, on s'inquiète dès le démarrage en fait du projet, parce que justement c'est une zone. Là aussi, on peut souligner à nouveau en fait l'implication et le travail de nos bénévoles. Parce que les bénévoles de l'association qui habite ce coin-là, c'était un terrain de jeu qu'ils aimaient beaucoup, en fait, ce petit...
pour aller regarder les espèces, quoi.
Tout à fait. Oui. Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'était un site qui était très bien inventorié, avec des données naturalistes connues. Et donc, nous, on écrit tout de suite au préfet, aux porteurs de projets, en disant attention, et notamment sur le triton marbré. Alors, le triton marbré, c'est une espèce... C'est très joli. Et puis, c'est surtout une espèce qui a un statut de conservation qui n'est pas très favorable. Il me semble qu'il est classé vulnérable parce que, justement, c'est une espèce qui a besoin d'un habitat qui est un petit peu exigeant et dont l'habitat se réduit drastiquement. Donc, nous, on conteste ce projet d'abord devant le tribunal administratif pour justement l'empêcher. Finalement, le projet se fait quand même et patatras, pendant la phase de réalisation des travaux, donc pendant le chantier, on se rend compte que finalement tous les engagements sur lesquels le porteur de projet s'était engagé, il ne les respecte pas.
D'accord. Donc là, vous avez, enfin, malheureusement, les tritons, ils ont été, leur habitat a été détruit, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est que ça, vous n'avez pas pu l'empêcher, mais vous avez pu les faire condamner. Mais ils sont condamnés à quoi dans ces cas-là?
Alors, la Générale du Solaire, donc qui est l'entreprise vraiment le porteur de projet, la Sablière de la Prée, en fait, c'est sa société, c'est une filiale à 100% de la Générale du Solaire, qui est la société d'exploitation. Donc aujourd'hui, le parc est en fonctionnement.
Ah oui.
Et ouais, nous, on demande pas son démantèlement. Hein,
c'est trop tard de toute façon.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Mmh. Et donc, ils ont été condamnés à des amendes. Donc à une amende de 100 000 euros pour la Générale et 50 000 pour la Sablière de la Prée, plus à nous verser des dommages et intérêts. Donc il y avait notamment Bretagne Vivante, mais il y avait aussi l'association France Nature Environnement qui s'était aussi constituée partie civile dans ce dossier. Nous, ce qu'on souhaite aussi par ce genre de dossier, c'est attirer l'attention en fait sur les entreprises, sur les porteurs de projets, en leur disant
faites pas n'importe quoi.
Faites pas n'importe quoi. À la fois dans le choix du site d'implantation et puis ensuite pendant la phase de réalisation des travaux, lorsque vous vous engagez à un calendrier de travaux, lorsque vous vous engagez à mettre des barrières anti-intrusion justement pour éviter que les amphibiens viennent coloniser la zone de travaux, lorsque vous vous engagez à creuser des mares à certains endroits, faites-le. Sinon, vous êtes dans l'illégalité en fait.
Ouais. Tout à fait. Et donc, c'est les amendes, là, juste une question qui me vient comme ça, mais l'argent des amendes, est-ce qu'il va à l'environnement, au ministère de l'Environnement ou pas, en fait?
Il y a un principe général de non-attribution, en fait, des dépenses de l'État, et donc du coup, des recettes de l'État plutôt, là, en l'occurrence, et donc du coup, ça va au budget général.
Oui, on ne sait pas, quoi. Et alors, il reste deux audiences en référé qui seront, qui auront lieu la semaine prochaine, donc sur des oiseaux, là, dans les deux cas, des espèces protégées aussi, on ne sait pas forcément, d'ailleurs, les choucas et les goélands. Alors les choucas, les goélands, on en a déjà parlé en fait sur Transistor. C'est quoi en gros le problème là
avec les goélands? Alors effectivement, vous avez déjà eu une émission sur le sujet récente. Donc on a adopté à l'échelle de l'association un positionnement sur la gestion des goélands urbains. Et donc là, c'est un premier cas d'application finalement de notre positionnement. Et donc c'est la commune du Croisic. Donc là, on part dans le Loire-Atlantique.
En Bretagne historique.
Voilà, c'est ça. Et la commune Croisic qui mène des campagnes de stérilisation sur les œufs de goélands. Donc ce qu'on conteste, en tout cas la manière dont c'est proposé là-bas. Et donc on a effectivement attaqué l'arrêté préfectoral qui autorise ces stérilisations. Puisque les goélands sont des espèces protégées, donc pour pouvoir porter atteinte à ces oiseaux, il faut une dérogation préfectorale. Donc c'est ça que nous contestons devant le tribunal. Et donc il y aura l'audience jeudi matin prochain à Nantes.
Et on verra. Mais en fait, j'imagine que si vous aurez comme argument de dire que ça ne sert pas à grand chose et que c'est cruel inutilement.
Oui, complètement. Alors là, effectivement, je vous invite à lire notre positionnement complet qui est sur notre site internet et qui contient énormément en fait, de ressources et d'informations qui montrent que ces campagnes de stérilisation, elles sont de plus en plus coûteuses, que leur résultat, il est très contestable, en tout cas par rapport à l'objectif recherché qui est d'éviter finalement les désagréments sur la population humaine, et que ce qui est aujourd'hui pertinent, c'est plutôt de travailler la relation homme-nature et comment finalement éduquer, sensibiliser les citadins, dont je fais partie, à vivre avec les goélands.
Vous n'avez qu'à écouter l'émission qu'on a faite. Vous la trouverez sur le site internet de Transistor et les choucas. C'est pareil, c'est une espèce protégée, même si on en voit beaucoup chez nous, c'est vrai. Hein.
Oui, c'est vrai. Le chouca, chouca des tours, donc, a la particularité d'avoir une affection particulière pour la Bretagne, puisque c'est une espèce qui est cavernicole, c'est-à-dire qui niche principalement en Bretagne, en tout cas dans des cheminées qui sont hors d'usage, donc ils trouvent effectivement un gîte. Et puis c'est une espèce aussi qui est insectivore, mais qui du coup au moment des semis de maïs va chercher à manger les vers, et c'est ce qu'on lui reproche finalement, c'est de mettre en l'air des semis entiers de maïs. Alors elle survit très bien en Bretagne parce qu'en fait l'hiver justement elle va aussi se nourrir de ces mêmes grains de maïs, et là où normalement l'hiver fait son travail, fait son œuvre un petit peu naturellement, là il va y avoir une absence en fait de mortalité des jeunes, parce que justement ils trouvent de la ressource, voilà, c'est et ça, ouais. Ils trouvent à manger, donc ils survivent à l'hiver, et donc ils sont effectivement assez nombreux en Bretagne, bien que ce soit quand même à recontextualiser, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a sans doute atteint un peu un palier quand même de la population, voire peut-être un déclin, ça c'est difficile de le dire pour l'instant, mais les études et les suivis qui sont actuellement faits permettront de nous le dire ou pas.
Et donc vous attaquez une dérogation en fait
Ça, c'est exactement le même principe que pour les goélands, c'est-à-dire que le chouquet des tours est une espèce protégée. C'est une espèce protégée de mémoire depuis 1986, et c'est justement son statut de protection qui a permis à l'espèce de se reconstituer, parce que quand elle a été protégée dans les années 80 en France, c'est parce que justement il y avait un déclin très très inquiétant du chouquet des tours, et donc son statut de protection a permis à l'espèce de se reconstituer. Donc il faut évidemment maintenir ce niveau de protection pour le chouquet des tours, et donc pour, de la même manière que pour le goéland ou finalement toutes les espèces protégées, si on veut porter atteinte à l'espèce, soit en détruisant des individus ou voilà, eh bien il faut une dérogation préfectorale. Et donc c'est ça aussi qu'on attaque. Et là l'audience aura lieu cette fois-ci à Rennes mercredi après-midi prochain. Audience au cours de laquelle on va demander la suspension des arrêtés. Cette année, à l'échelle de la Bretagne, parce que les quatre départements de la Bretagne administrative ont pris des dérogations en fait pour tirer des choucas, ça serait potentiellement 10 500 oiseaux qui pourraient être tués cette année.
Ah oui, donc ça fait beaucoup quand même. Très bien. Ben merci beaucoup Morgane Quintard. Bon courage pour toutes ces actions et la suite. C'est la fin de ce LEM qu'on pourra réécouter bien sûr sur le site internet de la radio, et on retrouvera Bretagne Vivante, Conservatoire d'Espaces Naturels Bretagne. Dans un mois, ça sera le Puffin des Baléares qui sera au programme. Au revoir.
Au revoir.